Chapitre 2. Le plus bel objet de la consommation, le corps. Dans la panoplie de la consommation, il est un objet plus beau, plus précieux, plus éclatant que tous, plus lourd de connotation encore que l'automobile qui pourtant les résume tous, c'est le corps. Sa redécouverte, après une ère millénaire de puritanisme, sous le signe de la libération physique et sexuelle, sa toute présence, et spécifiquement du corps féminin, il faudra voir pourquoi, dans la publicité, la mode, la culture de masse, le culte hygiénique, diététique, thérapeutique dont on l'entoure, l'obsession de jeunesse, d'élégance, de virilité, féminité, les soins, les régimes, les pratiques sacrificielles qui s'y rattachent, le mythe du plaisir qui l'enveloppe, tout témoigne aujourd'hui que le corps est devenu objet de salut. Il est littéralement substitué à l'âme dans cette fonction morale et idéologique. Une propagande sans relâche nous rappelle, selon les termes du cantique, que nous n'avons qu'un corps et qu'il faut le sauver. Pendant des siècles, on s'est acharné à convaincre les gens qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en ont d'ailleurs jamais été vraiment convaincus. On s'obstine aujourd'hui systématiquement à les convaincre de leur corps. Il y a là quelque chose d'étrange. Le corps n'est-il pas l'évidence même? Il semble que non. Le statut du corps est un fait de culture. Or, dans quelque culture que ce soit, le mode d'organisation de la relation au corps reflète le mode d'organisation de la relation aux choses et celui des relations sociales. Dans une société capitaliste, le statut général de la propriété privée s'applique également au corps, à la pratique sociale et à la représentation mentale qu'on en a. Dans l'ordre traditionnel, chez le paysan par exemple, pas d'investissement narcissique, pas de perception spectaculaire de son corps, mais une vision instrumentale magique, induite par le procès du travail et le rapport à la nature. Ce que nous voulons montrer, c'est que les structures actuelles de la production-consommation induisent chez le sujet une pratique double, liée à une représentation désunie, mais profondément solidaire de son propre corps. Celle du corps capital, celle du corps fétiche ou objet de consommation. Dans les deux cas, il importe que le corps, loin d'être nié ou omis, soit délibérément investi, dans les deux sens, économique et psychique du terme. Les clés secrètes de votre corps. Un bel exemple de cette réappropriation dirigée du corps nous est donné par Elle, dans un article intitulé « Les clés secrètes de votre corps, celles qui ouvrent les chemins d'une vie sans complexe ». Votre corps est à la fois votre limite et votre sixième sens, dit le texte pour commencer, et se donne du sérieux en dressant la psychogenèse romancée de l'appropriation du corps et de son image. Ouvrez les guillemets. Vers 6 mois, vous avez commencé à percevoir, très obscurément encore, que vous aviez un corps distinct. Une allusion au stade du miroir, une allusion frileuse aux zones érogènes, et on passe à l'essentiel. Vous sentez-vous bien dans votre peau? Tout de suite, Brigitte Bardot. Elle est bien dans sa peau. Chez elle, tout est beau, le dos, le cou, la chute de rein. Le secret de Brigitte Bardot, c'est qu'elle habite réellement son corps. Elle est comme un petit animal qui remplit exactement sa robe. Fermez les guillemets. Habite-t-elle son corps ou sa robe? Quelle est, de la robe ou du corps, la résidence secondaire? Exactement, elle porte son corps comme une robe, ce qui renvoie ici « habiter » à un effet de mode et de panoplie, à un principe ludique renforcé encore par le petit animal. Si jadis c'était l'âme qui enveloppait le corps, aujourd'hui c'est la peau qui l'enveloppe. Mais non pas la peau comme irruption de la nudité, et donc du désir, la peau comme vêtement de prestige et résidence secondaire, comme signe et comme référence de mode. Et donc substituable à la robe sans changer de sens, comme on le voit bien dans l'exploitation actuelle de la nudité au théâtre et ailleurs, où elle apparaît en dépit de faux pathétiques sexuels, comme un terme de plus dans le paradigme du vêtement de mode. Revenons à notre texte. Il faut être présent à soi-même, apprendre à lire son corps. Sinon, vous êtes anti-Brigitte Bardot. Étendez-vous sur le sol, ouvrez les bras et suivez très lentement avec le majeur de la main droite cette ligne invisible qui monte de l'annulaire tout au long du bras jusqu'au creux du coude, de l'aisselle. Une même ligne existe sur vos jambes. Ce sont les lignes de sensibilité. C'est votre carte du tendre. Il existe d'autres lignes de tendresse. Le long de la colonne vertébrale, sur la nuque, le ventre, les épaules, etc. Si vous ne les connaissez pas, alors se produit dans votre corps un refoulement, comme il s'en produit dans la psyché. Les territoires du corps que votre sensibilité n'habite pas, que votre pensée ne visite pas, sont des terres disgraciées. La circulation s'y fait mal, elle manque de tonus. Ou encore, la cellulite tend à s'y installer définitivement. Fermez les guillemets. Autrement dit, si vous ne faites pas vos dévotions corporelles, si vous péchez par omission, vous serez puni. Tout ce dont vous souffrez, c'est par irresponsabilité coupable envers vous-même, votre propre salut. En dehors du singulier terrorisme moral qui souffle sur cette carte du temps et qui équivaut au terrorisme puritain, sinon qu'ici ce n'est plus Dieu qui vous punit, c'est votre propre corps, instance tout d'un coup maléfique, répressive, et qui se venge si vous n'êtes pas tendre avec lui. On voit comment ce discours, sous couleur de réconcilier chacun avec son propre corps, réintroduit bien entre le sujet et le corps objectivé comme double menaçant, les mêmes relations qui sont celles de la vie sociale, les mêmes déterminations qui sont celles des rapports sociaux, chantage, répression, syndrome de persécution, névrose conjugale, les mêmes femmes qui lisent ceci diront quelques pages plus loin « Si vous n'êtes pas tendre avec votre mari, vous porterez la responsabilité de l'échec de votre mariage. » En dehors donc de ce terrorisme latent qui s'adresse dans elle, plus particulièrement aux femmes, ce qui est intéressant, c'est la suggestion d'involuer dans votre propre corps et de l'investir narcissiquement de l'intérieur, non pas du tout pour le connaître en profondeur, mais bien selon une logique toute fétichiste et spectaculaire, pour le constituer, vers l'extérieur, comme objet plus lisse, plus parfait, plus fonctionnel. Cette relation narcissique, mais d'un narcissisme dirigé, tel qu'il opère sur le corps comme un territoire vierge, comme un gisement à exploiter pour en faire surgir les signes visibles du bonheur, de la santé, de la beauté, de l'animalité triomphante sur le marché de la mode, cette relation trouve son expression mystique dans les confessions de lectrices qui suivent. « Je découvrais mon corps. La sensation m'atteignait dans toute sa pureté. Mieux encore, il y eut comme une embrassade entre mon corps et moi. Je me mis à l'aimer. » Et l'aimant, j'ai voulu m'occuper de lui avec la même tendresse que j'avais pour mes enfants. Significative est cette involution régressive de l'affectivité vers le corps enfant, le corps bibelot, métaphore inépuisable d'un pénis choyé, bercé et castré. Dans ce sens, le corps, devenu le plus bel objet de sollicitude, monopolise à son profit toute l'affectivité dite normale, envers d'autres personnes réelles, sans pour autant prendre de valeur propre, puisque, dans ce procès de détournement affectif, n'importe quel autre objet peut, selon la même logique fétichiste, jouer ce rôle. Le corps n'est que le plus beau de ces objets psychiquement possédés, manipulés, consommés. Mais l'essentiel, c'est que ce réinvestissement narcissique, orchestré comme mystique de libération et d'accomplissement, est en fait toujours simultanément un investissement de type efficace, concurrentiel, économique. Le corps ainsi réapproprié l'aide d'emblée en fonction d'objectifs capitalistes. Autrement dit, s'il est investi, c'est pour le faire fructifier. Ce corps réapproprié ne l'est pas selon les finalités autonomes du sujet, mais selon un principe normatif de jouissance et de rentabilité hédoniste, selon une contrainte d'instrumentalité directement indexée sur le code et les normes d'une société de production et de consommation dirigée. Autrement dit, on gère son corps, on l'aménage comme un patrimoine, on le manipule comme un des multiples signifiants de statut social. La femme qui plus haut dit « s'occuper de lui avec la même tendresse qu'elle a pour ses enfants » ajoute aussitôt « j'ai commencé à fréquenter les instituts de beauté, les gens qui m'ont vu après cette crise m'ont trouvé plus heureuse, plus belle ». Récupéré comme instrument de jouissance et exposant de prestige, le corps est alors l'objet d'un travail d'investissement, sollicitude, obsession, qui, derrière le mythe de libération dont on veut bien le couvrir, constitue sans doute un travail plus profondément aliéné que l'exploitation du corps dans la force de travail. La beauté fonctionnelle. Dans ce long processus de sacralisation du corps comme valeur exponentielle, du corps fonctionnel, c'est-à-dire qui n'est plus ni chair comme dans la vision religieuse, ni force de travail comme dans la logique industrielle, mais repris dans sa matérialité ou dans son idéalité visible, comme objet de culte narcissique ou élément de tactique et de rituel social, la beauté et l'érotisme sont deux leitmotifs majeurs. Ils sont inséparables et instituent à eux deux cette nouvelle éthique de la relation au corps. Valable pour l'homme comme pour la femme, il se différencie cependant en un pôle féminin et un pôle masculin. phrynéisme et athlétisme. Ainsi pourrait-on désigner les deux modèles adverses dont, pour l'essentiel d'ailleurs, les données fondamentales s'échangent. Le modèle féminin détient pourtant une espèce de priorité. C'est un peu lui le schéma directeur de cette nouvelle éthique, et ce n'est pas un hasard si c'est dans elle que nous trouvons le type de document analysé ci-dessus. La beauté est devenue pour la femme un impératif absolu, religieux. Être belle n'est plus un effet de nature, ni un surcroît aux qualités morales, c'est la qualité fondamentale, impérative, de celles qui soignent leur visage et leur ligne comme leur âme. Signe d'élection au niveau du corps comme la réussite au niveau des affaires. D'ailleurs, beauté et réussite reçoivent dans leurs magazines respectifs le même fondement mystique. Chez la femme, c'est la sensibilité explorant et évoquant de l'intérieur toutes les parties du corps. Chez l'entrepreneur, c'est l'intuition adéquate de toutes les virtualités du marché. Signe d'élection et de salut. L'éthique protestante n'est pas loin. Et il est vrai que la beauté n'est un impératif si absolu que parce qu'elle est une forme du capital. Allons plus loin dans cette même logique. L'éthique de la beauté, qui est celle même de la mode, peut se définir comme la réduction de toutes les valeurs concrètes, les valeurs d'usage, du corps, énergétique, gestuelle, sexuelle, en une seule valeur d'échange fonctionnelle qui résume à elle seule, dans son abstraction, l'idée du corps glorieux, accompli, l'idée du désir et de la jouissance. Et par là même, bien sûr, les nie et les oublie dans leur réalité pour s'épuiser dans un échange de signes. Car la beauté n'est rien de plus qu'un matériel de signes qui s'échange. Elle fonctionne comme valeur signe. C'est pourquoi on peut dire que l'impératif de beauté est une des modalités de l'impératif fonctionnel, ceci valable pour les objets comme pour les femmes et les hommes. L'esthéticienne qu'est devenue chaque femme pour elle-même étant l'homologue du designer ou du styliste dans l'entreprise. D'ailleurs, si l'on envisage les principes dominants de l'esthétique industrielle, le fonctionnalisme, on voit qu'il s'applique à la charte de la beauté tout court. Brigitte Bardot, qui est bien dans sa peau ou qui remplit exactement sa robe, c'est le même schème de conjonction harmonieuse de la fonction et de la forme. L'érotisme fonctionnel. Avec la beauté telle que nous venons de la définir, c'est la sexualité qui partout aujourd'hui oriente la redécouverte et la consommation du corps. L'impératif de beauté, qui est impératif de faire valoir le corps par le détour du réinvestissement narcissique, implique l'érotique comme faire valoir sexuel. Il faut distinguer clairement l'érotique comme dimension généralisée de l'échange dans nos sociétés de la sexualité proprement dite. Il faut distinguer le corps érotique, support des signes échangés du désir, du corps lieu du fantasme et habitacle du désir. Dans le corps pulsion, le corps fantasme prédomine la structure individuelle du désir. Dans le corps érotisé, c'est la fonction sociale d'échange qui prédomine. Dans ce sens, l'impératif érotique, qui comme la politesse ou tant d'autres rituels sociaux, passe par un code instrumental de signes, n'est, comme l'impératif esthétique dans la beauté, qu'une variante ou une métaphore de l'impératif fonctionnel. La chaleur de la femme, d'elle, est celle-même de l'ensemble mobilier moderne. C'est une chaleur d'ambiance. Elle ne relève plus de l'intimité et du sensuel, mais de la signification sexuelle calculée. La sensualité est chaleur. Cette sexualité, elle, est chaude et froide comme le jeu de couleurs chaudes et froides d'un intérieur fonctionnel. Elle a la même blancheur que les formes enveloppantes des objets modernes, stylisés et habillés. Ce n'est pas non plus d'ailleurs une frigidité, comme on le dit, car la frigidité sous-entend comme une résonance sexuelle de viol. Le mannequin n'est pas frigide, c'est une abstraction. Le corps du mannequin n'est plus objet de désir, mais objet fonctionnel, forum de signes où la mode et l'érotique se mêlent. Ce n'est plus une synthèse de gestes, même si la photographie de mode déploie tout son art à recréer du gestuel et du naturel par un processus de simulation, ce n'est plus à proprement parler un corps, mais une forme. C'est là où tous les censeurs modernes se trompent, ou veulent bien se tromper. C'est que dans la publicité et la mode, le corps nu de la femme ou de l'homme se refuse comme chair, comme sexe, comme finalité du désir, instrumentalisant au contraire les parties morcelées du corps dans un gigantesque processus de sublimation, de conjuration du corps dans son évocation même. Comme l'érotique est dans les signes, jamais dans le désir, la beauté fonctionnelle des mannequins est dans la ligne, jamais dans l'expression. Elle est même et surtout absence d'expression. l'irrégularité ou la laideur feraient ressurgir un sens, elles sont exclues. Car la beauté est tout entière dans l'abstraction, dans le vide, dans l'absence et la transparence extatique. Cette désincarnation se résume à la limite dans le regard. Ces yeux fascinants fascinés, en abîme, ce regard sans objet, à la fois sur-signification du désir et absence totale du désir, sont beaux dans leur érection vide, dans l'exaltation de leur censure. C'est là leur fonctionnalité. Yeux de méduse, yeux médusés, signe pur. Ainsi, tout au long du corps dévoilé, exalté, dans ses yeux spectaculaires, cernés par la mode et non par le plaisir, c'est le sens même du corps, c'est la vérité du corps qui s'abolit dans un processus hypnotique. C'est dans cette mesure que le corps, celui de la femme surtout, et plus particulièrement celui du modèle absolu qu'est le mannequin, se constitue en objet homologue des autres objets sexués et fonctionnels que véhicule la publicité. Principe de plaisir et force productive. Inversement, le moindre des objets, investi implicitement sur le modèle du corps-objet de la femme, se fétichise de la même façon. D'où l'imprégnation généralisée de tout le domaine de la consommation par l'érotisme. Ce n'est pas là une mode au sens léger du terme, c'est la logique propre et rigoureuse de la mode. Corps et objet constituent un réseau de signes homogènes qui peuvent, sur la base de l'abstraction dont on vient de parler, échanger leur signification. C'est là proprement leur valeur d'échange, et se faire valoir réciproquement. Cette homologie du corps et des objets introduit au mécanisme profond de la consommation dirigée. Si la redécouverte du corps est toujours celle du corps-objet dans le contexte généralisé des autres objets, on voit combien la transition est facile, logique et nécessaire, de l'appropriation fonctionnelle du corps à l'appropriation de biens et d'objets dans l'achat. On sait de reste combien l'érotique et l'esthétique moderne du corps baignent dans un environnement foisonnant de produits, de gadgets, d'accessoires, sous le signe de la sophistication totale. De l'hygiène au maquillage, en passant par le bronzage, le sport et les multiples libérations de la mode, la redécouverte du corps passe d'abord par les objets. Il semble même que la seule pulsion vraiment libérée soit la pulsion d'achat. Citons encore une fois la femme qui, ayant eu le coup de foudre pour son corps, se précipite vers l'Institut de beauté. Le cas inverse est plus fréquent d'ailleurs, de toutes celles qui se vouent aux eaux de toilette, aux massages, aux cures, dans l'espoir de découvrir leur corps. L'équivalence théorique du corps et des objets comme signe permet en effet l'équivalence magique « achetez et vous serez bien dans votre peau ». C'est là où toute la psychofonctionnalité analysée ci-dessus prend tout son sens économique et idéologique. Le corps fait vendre, la beauté fait vendre, l'érotisme fait vendre, et ce n'est pas là la moindre des raisons qui, en dernière instance, oriente tout le processus historique de la libération du corps. Il en est du corps comme de la force de travail. Il faut qu'il soit libéré, émancipé, pour pouvoir être exploité rationnellement à des fins productivistes. De même qu'il faut que joue la libre détermination et l'intérêt personnel, principe formel de la liberté individuelle du travailleur, pour que la force de travail puisse se muer en demande salariale et valeur d'échange, de même il faut que l'individu puisse redécouvrir son corps et l'investir narcissiquement, principe formel de plaisir, pour que la forme du désir puisse se muer en demande d'objets signes manipulables rationnellement. Il faut que l'individu se prenne lui-même comme objet, comme le plus beau des objets, comme le plus précieux matériel d'échange, pour que puisse s'instituer au niveau du corps déconstruit, de la sexualité déconstruite, un processus économique de rentabilité. Stratégie moderne du corps. Pourtant, cet objectif productiviste, ce processus économique de rentabilité par lequel se généralisent au niveau du corps les structures sociales de production, est sans doute encore secondaire par rapport aux finalités d'intégration et de contrôle social mises en place à travers tout le dispositif mythologique et psychologique centré autour du corps. Dans l'histoire des idéologies, celles relatives au corps ont eu longtemps valeur critique offensive contre les idéologies de type spiritualiste, puritaine, moralisante, centrée sur l'âme ou quelque autre principe immatériel. Dès le Moyen-Âge, toutes les hérésies ont de quelque façon pris un tour de revendication charnelle, de résurrection anticipée des corps face aux dogmes rigides des églises. c'est la tendance adamique toujours renaissante, toujours condamnée par l'orthodoxie. Depuis le XVIIIe, la philosophie sensualiste, empiriste, matérialiste a battu en brèche les dogmes spiritualistes traditionnels. Il serait intéressant d'analyser de près le très long processus de désagrégation historique de cette valeur fondamentale appelée l'âme, autour duquel s'organisait tout le schéma individuel de salut, et bien sûr aussi tout le procès d'intégration sociale. Cette longue désacralisation, sécularisation au profit du corps, a traversé toute l'ère occidentale. Les valeurs du corps furent des valeurs subversives, foyer de la contradiction idéologique la plus aiguë. Qu'en est-il aujourd'hui où ces valeurs ont droit de cité et sont imposées comme une nouvelle éthique? Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Nous sommes plutôt dans une phase de télescopage des idéologies puritaines et hédonistes, mêlant leurs discours à tous les niveaux. Nous voyons que le corps aujourd'hui, apparemment triomphant, au lieu de constituer encore une instance vivante et contradictoire, une instance de démystification, a tout simplement pris le relais de l'âge comme instance mythique, comme dogme et comme schème de salut. Sa découverte, qui fut longtemps une critique du sacré, vers plus de liberté, de vérité, d'émancipation, bref, un combat pour l'homme contre Dieu, se fait aujourd'hui sous le signe de la resacralisation. Le culte du corps n'est plus en contradiction avec celui de l'âme, il lui succède et il hérite de sa fonction idéologique. Comme dit Norman Brown, Eros et Thanatos, page 304, il convient de ne pas se laisser égarer par l'antinomie absolue entre le sacré et le profane, et de ne pas interpréter comme une sécularisation ce qui n'est qu'une métamorphose du sacré. Fermez les guillemets. L'évidence matérielle du corps libéré, mais nous avons vu libéré comme objet signe et censuré dans sa vérité subversive du désir, aussi bien dans l'érotisme que dans le sport et l'hygiène, ne doit pas nous tromper. Elle traduit simplement la substitution à une idéologie périmée, celle de l'âme, inadéquate à un système productiviste évolué et incapable désormais d'assurer l'intégration idéologique d'une idéologie moderne, plus fonctionnelle, qui pour l'essentiel préserve le système de valeurs individualistes et les structures sociales qui lui sont liées. Elle les renforce même, leur donne une assise presque définitive, puisqu'elle substitue à la transcendance de l'âme l'immanence totale, l'évidence spontanée du corps. Or cette évidence est fausse. Le corps tel que l'institue la mythologie moderne n'est pas plus matériel que l'âme. Il est comme elle une idée, ou plutôt, car le terme d'idée ne veut pas dire grand-chose, un objet partiel hypostasié, un double privilégié et investi comme tel. Il est devenu ce qu'était l'âme en son temps, le support privilégié de l'objectivation, le mythe directeur d'une éthique de la consommation. On voit combien le corps est étroitement mêlé aux finalités de la production comme support économique, comme principe d'intégration dirigé de l'individu et comme stratégie de contrôle social. Le corps est-il féminin? Revenons à la question réservée au début, celle du rôle dévolu à la femme et au corps de la femme comme véhicule privilégié de la beauté, de la sexualité, du narcissisme dirigé. Car s'il est évident que le processus de réduction du corps à la valeur d'échange esthétique érotique touche aussi bien le masculin que le féminin, nous avons proposé pour cela deux termes, athlétisme et frinéisme, le frinéisme étant grossièrement défini par la femme d'elle et des magazines de mode, l'athlétisme masculin trouvant son modèle le plus large dans l'athlétisme du cadre supérieur, tel que le propose partout la publicité, le film, la littérature de masse, l'œil vif, l'épaule large, le muscle délié, la voiture de sport. Le modèle athlétique englobe l'athlétisme sexuel. Le haut cadre technique des petites annonces du monde est aussi l'homme de lui. Mais enfin, quelle que soit la part qui revienne là-dedans au modèle masculin ou au modèle hermaphrodite de transition, les jeunes constituant une espèce de tiers-sexe, lieu d'une sexualité polymorphe et perverse. C'est cependant la femme qui orchestre, ou plutôt sur laquelle s'orchestre ce grand mythe esthétique érotique. Il faut trouver à cela une raison autre que celle archétypale du type. La sexualité, c'est la femme, parce que c'est la nature, etc. Il est vrai que dans l'ère historique qui nous concerne, la femme s'est trouvée confondue avec la sexualité maléfique et condamnée comme telle. Mais cette condamnation morale sexuelle et tout entière sous-tendue par une servitude sociale. La femme et le corps ont partagé la même servitude, la même relégation tout au long de l'histoire occidentale. La définition sexuelle de la femme est d'origine historique. Le refoulement du corps et l'exploitation de la femme sont placés sous le même signe, qui veut que toute catégorie exploitée, donc menaçante, prenne automatiquement une définition sexuelle. Les Noirs sont sexualisés pour la même raison, non parce qu'ils seraient plus proches de la nature, mais parce qu'ils sont serfs et exploités. La sexualité refoulée, sublimée, de toute une civilisation, se conjugue forcément avec la catégorie dont le refoulement social, la suggestion, constitue la base même de cette culture. Or, de même que femme et corps furent solidaires dans la servitude, l'émancipation de la femme et l'émancipation du corps sont logiquement et historiquement liées. Pour des raisons proches, l'émancipation des jeunes leur est contemporaine. Mais nous voyons que cette émancipation simultanée se fait sans que soit du tout levée la confusion idéologique fondamentale entre la femme et la sexualité. L'hypothèque puritaine pèse encore de tout son poids. Mieux, elle prend aujourd'hui seulement toute son ampleur, puisque la femme, jadis asservie en tant que sexe, aujourd'hui est libérée en tant que sexe. Si bien qu'on voit s'approfondir sous toutes les formes cette confusion presque irréversible désormais, puisque c'est à mesure qu'elle se libère que la femme se confond de plus en plus avec son propre corps. Mais nous avons vu dans quelles conditions, en fait, c'est la femme apparemment libérée qui se confond avec le corps apparemment libéré. On peut dire des femmes comme du corps, comme des jeunes et de toutes les catégories dont l'émancipation constitue le leitmotiv de la société démocratique moderne, tous ceux au nom de quoi ils sont émancipés, la liberté sexuelle, l'érotisme, le jeu, etc., s'instituent en système de valeurs de tutelle. Valeurs irresponsables, orientant en même temps des conduites de consommation et de régulation sociale, l'exaltation même, l'excès d'honneur barrant la responsabilité économique et sociale réelle. Les femmes, les jeunes, le corps, dont l'émergence après des millénaires de servitude et d'oubli constitue en effet la virtualité la plus révolutionnaire, et donc le risque le plus fondamental pour quelque ordre établi que ce soit, sont intégrés et récupérés comme mythes d'émancipation. On donne à consommer de la femme aux femmes, des jeunes aux jeunes, et dans cette émancipation formelle et narcissique, on réussit à conjurer leur libération réelle. Ou encore, en assignant les jeunes à la révolte, on fait d'une pierre deux coups, on conjure la révolte diffuse dans toute la société en l'affectant à une catégorie particulière et on neutralise cette catégorie en la circonscrivant dans un rôle particulier, la révolte. Admirable cercle vicieux de l'émancipation dirigée qu'on retrouve pour la femme, en confondant la femme et la libération sexuelle, on les neutralise l'une par l'autre. La femme se consomme à travers la libération sexuelle. La libération sexuelle se consomme à travers la femme. Ce n'est pas là un jeu de mots. Un des mécanismes fondamentaux de la consommation est cette autonomisation formelle de groupe, de classe, de caste et de l'individu, à partir de et grâce à l'autonomisation formelle de systèmes de signes ou de rôles. Il n'est pas question de nier l'évolution réelle du statut des femmes et des jeunes comme catégorie sociale. Ils sont plus libres, en effet. Ils votent, ils acquièrent des droits, ils travaillent plus et plus tôt. De même, il serait vain de nier l'importance objective dévolue au corps, à ses soins, à ses plaisirs, le supplément de corps et de sexualité dont bénéficie aujourd'hui l'individu moyen. Nous sommes loin du dégagement rêvé dont parlait Rimbaud. Mais enfin, admettons qu'il y ait dans tout cela une plus grande liberté de manœuvre et une plus grande intégration positive des femmes, des jeunes, des problèmes du corps. Ce que nous voulons dire, c'est que cette relative émancipation concrète, parce qu'elle n'est que l'émancipation des femmes, des jeunes, du corps, en tant que catégorie immédiatement indexée sur une pratique fonctionnelle, se double d'une transcendance mythique, ou plutôt, se dédouble en une transcendance mythique, en une objectivation comme mythe. L'émancipation de certaines femmes, et celle relative de toutes, pourquoi pas, n'est en quelque sorte que le bénéfice secondaire, la retombée, l'alibi de cette immense opération stratégique qui consiste à circonscrire dans l'idée de la femme et de son corps tout le péril social de la libération sexuelle, à circonscrire dans l'idée de la libération sexuelle, dans l'érotisme, le péril de la libération de la femme, a conjuré sur la femme objet tous les périls de la libération sociale des femmes. Le culte médical, la forme. De la relation actuelle au corps qui est moins celle au corps propre qu'au corps fonctionnel et personnalisé, se déduit la relation à la santé. Celle-ci se définit comme fonction générale d'équilibre du corps lorsqu'elle est médiée par une représentation instrumentale du corps. Médiée par une représentation du corps comme bien de prestige, elle devient exigence fonctionnelle de statut. À partir de là, elle entre dans la logique concurrentielle et se traduit par une demande virtuellement illimitée de services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, demande compulsive liée à l'investissement narcissique du corps-objet, partiel, et demande statutaire, liée au processus de personnalisation et de mobilité sociale. Demande qui, de toute façon, n'a plus qu'un lointain rapport avec le droit à la santé, extension moderniste des droits de l'homme, complémentaire du droit à la liberté et à la propriété. La santé est moins aujourd'hui un impératif biologique lié à la survie qu'un impératif social lié au statut. C'est moins une valeur fondamentale qu'un faire-valoir. C'est la forme, dans la mystique du faire-valoir, qui rejoint immédiatement la beauté. Leurs signes s'échangent dans le cadre de la personnalisation, cette manipulation anxieuse et perfectionniste de la fonction signe du corps. Ce syndrome corporel du faire-valoir, qui lie le narcissisme et le prestige social, se lie très clairement aussi à l'inverse, dans le fait actuel très général et qu'on doit tenir pour un des éléments essentiels de l'éthique moderne, n'importe quelle déception de prestige, n'importe quel revers social ou psychologique est immédiatement somatisé. Il est donc superficiel de prétendre qu'aujourd'hui la pratique médicale s'est désacralisée, que les gens, parce qu'ils vont plus souvent plus librement chez leur médecin, parce qu'ils usent et abusent sans complexe, ce qui n'est pas vrai, de cette prescription sociale démocratisée, se rapprochent d'une pratique objective de la santé et de la médecine. La médecine démocratiquement consommée n'a rien perdu de son sacré et de sa fonctionnalité magique. Mais ce n'est évidemment plus celle traditionnelle qui s'attachait, dans la personne du médecin-prêtre, du sorcier, du guérisseur, à l'opération du corps pratique, du corps instrumental guetté par les fatalités étrangères, tel qu'il apparaît encore dans la vision paysanne et primaire, où le corps n'est pas intériorisé comme valeur personnelle, personnalisé. On ne fait pas son salut, on ne signe pas son statut à travers son corps. Celui-ci est outil de travail et mana, c'est-à-dire force efficiente. S'il se détraque, le médecin restitue la mana du corps. Ce type de magie et le statut correspondant du médecin tend à disparaître. Mais il ne laisse pas place, dans la vision moderne, à une représentation objective du corps. Il laisse place à deux modalités complémentaires, investissement narcissique et faire-valoir, dimension psychique et dimension statutaire. C'est dans ces deux sens que se réélabore le statut du médecin et de la santé. Et c'est maintenant seulement, à travers la redécouverte et la sacralisation individuelle du corps, c'est maintenant seulement que la médicalité prend toute son envergure, de même que c'est avec la cristallisation mythique d'une âme individuelle que la cléricalité comme institution transcendante avait pris tout son essor. Les religions primitives ne connaissaient pas de sacrement. Elles connaissaient une pratique collective. C'est avec l'individualisation du principe de salut, principalement dans la spiritualité chrétienne, que s'instituent les sacrements et les officiants qui en ont la charge. C'est avec l'individualisation encore plus poussée de la conscience que s'institue la confession individuelle, le sacrement par excellence. Toute proportion gardée et tout en conscience des risques de l'analogie, il en est de même pour nous avec le corps et la médecine. C'est avec la somatisation, au sens le plus large, non clinique du terme, individuelle généralisée, c'est avec le corps comme objet de prestige et de salut, comme valeur fondamentale, que le médecin devient confesseur, absoluteur, officiant, et que le corps médical s'installe dans le surprivilège social qui est le sien actuellement. Sur le corps privatisé, personnalisé, convergent de plus belle toutes sortes de conduites sacrificielles d'autosollicitude et de conjurations malignes, de gratification et de répression, tout un faisceau de consommation seconde, irrationnelle, sans finalité thérapeutique et qui vont jusqu'à transgresser les impératifs économiques. La moitié des achats de médicaments se fait sans ordonnance, y compris chez les assurés sociaux. À quoi obéit cette conduite, sinon à la pensée profonde qu'il faut et qu'il suffit, que ça vous coûte quelque chose pour que la santé vous advienne en échange. Consommation rituelle, sacrificielle plus que médication. Demande compulsive de médicaments dans les classes inférieures. Demande du médecin dans les classes aisées, que le médecin soit pour ces dernières plutôt le psychanalyste du corps, ou pour les premières dispensateurs de biens et de signes matériels. De toute façon, médecins et médicaments ont une vertu culturelle plus qu'une fonction thérapeutique, et ils sont consommés comme mana virtuelle. Ceci selon une éthique toute moderne qui, à l'inverse de l'éthique traditionnelle qui veut que le corps serve, enjoint à chaque individu de se mettre au service de son propre corps. Voir l'article d'elle. On se doit de se soigner comme de se cultiver. C'est un trait de respectabilité en quelque sorte. La femme moderne est à la fois la vestale et le manager de son propre corps. Elle veille à le garder beau et compétitif. Le fonctionnel et le sacré se mêlent ici inextricablement et le médecin cumule sur sa personne la révérence due à l'expert avec celle due au sacerdoce. L'obsession de la minceur, la ligne. L'obsession de garder la ligne peut se comprendre. L'obsession de garder la ligne peut se comprendre selon le même impératif catégorique. Bien sûr, il n'est que de jeter un coup d'œil sur les autres cultures, beauté et minceur n'ont aucune façon d'affinité naturelle. La graisse et l'obésité furent belles aussi, ailleurs et en d'autres temps. Mais cette beauté impérative, universelle et démocratique, inscrite comme le droit et le devoir de tous au fronton de la société de consommation, celle-là est indissociable de la minceur. La beauté ne saurait être grasse ou mince, lourde ou svelte, comme elle le pouvait dans une définition traditionnelle fondée sur l'harmonie des formes. Elle ne saurait être que mince et svelte, selon sa définition actuelle de la logique combinatoire de signes, régie par la même économie algébrique que la fonctionnalité des objets ou l'élégance d'un diagramme. Elle sera même plutôt maigre et décharnée dans le profil des modèles et des mannequins, qui sont en même temps la négation de la chair et l'exaltation de la mode. Le fait peut sembler étrange, car si nous définissons, entre autres, la consommation comme généralisation des processus combinatoires de la mode, nous savons que la mode peut jouer sur tout, sur les termes inverses, indifféremment sur l'ancien et le nouveau, le beau et le laid, dans leur définition classique, le moral et l'immoral. Mais elle ne peut pas jouer sur le gras et sur le mince. Il y a là comme une limite absolue. Serait-ce qu'en société de surconsommation alimentaire, la sveltesse devient un signe distinctif en soi? Même si la minceur joue comme telle par rapport à toutes les cultures et les générations antérieures, par rapport aux classes paysannes et inférieures, on sait qu'il n'y a pas de signe distinctif en soi, mais seulement les signes formels inverses, l'ancien et le nouveau, le long et le court, etc., qui se relaient comme signes distinctifs et alternent pour renouveler le matériel sans qu'aucun n'évince définitivement l'autre. Or, dans le domaine de la ligne, domaine par excellence de la mode, paradoxalement, le cycle de la mode ne joue plus. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus fondamental que la distinction, et qui doit être lié au mode même de complicité avec son propre corps que nous avons vu s'instituer à l'ère contemporaine. La libération du corps a pour effet de le constituer en objet de sollicitude. Or, cette sollicitude, comme tout ce qui touche au corps et à la relation du corps, est ambivalente, jamais seulement positive, mais tout ensemble négative. Le corps est toujours libéré comme objet simultané de cette double sollicitude. En conséquence, l'immense processus de sollicitude gratifiante que nous avons décrit comme institution moderne du corps se double d'un investissement égal et tout aussi considérable de sollicitude répressive. C'est cette sollicitude répressive qui s'exprime dans toutes les obsessions collectives modernes relatives au corps. L'hygiène sous toutes ses formes, avec ses fantasmes de stérilité, d'asepsie, de prophylaxie, ou à l'inverse de promiscuité, de contamination, de pollution, tendant à conjurer le corps organique et en particulier les fonctions d'excrétion et de sécrétion, vise à une définition du corps négative, par élimination, comme d'un objet lisse, sans défaut, asexué, retranché de toute agression externe et par la protéger contre lui-même. L'obsession de l'hygiène n'est pourtant pas l'héritière directe de la morale puritaine. Celle-ci niait, réprouvait, refoulait le corps, De façon plus subtile, l'éthique contemporaine le sanctifie dans son abstraction hygiénique, dans toute sa pureté de signifiant désincarné. De quoi ? Du désir oublié, censuré. C'est pourquoi la compulsion hygiénique, phonique, obsessionnelle, est toujours proche. Dans l'ensemble pourtant, la préoccupation hygiénique ne fonde pas une morale pathétique mais ludique. Elle élude les fantasmes profonds au profit d'une relation superficielle, cutanée, du corps. Prenant soin amoureux de celui-ci, elle prévient toute collusion du corps et du désir. Elle est plus proche, somme toute, des techniques sacrificielles de préparation du corps, techniques ludiques de contrôle et non de répression des sociétés primitives que de l'éthique répressive de l'ère puritaine. Beaucoup plus que dans l'hygiène, c'est dans l'ascèse des régimes alimentaires que se lie la pulsion agressive envers le corps, pulsion libérée en même temps que le corps lui-même. Les sociétés anciennes avaient leurs pratiques rituelles de jeûne, pratiques collectives liées à la célébration des fêtes, avant ou après, jeûne avant la communion, jeûne à l'avant, carême après le mardi gras. Elles avaient pour fonction de drainer et de résorber dans l'observance collective toute cette pulsion agressive diffuse envers le corps, toute l'ambivalence du rapport à la nourriture et à la consommation. Or, ces institutions diverses de jeûne et de mortification sont tombées en désuétude comme autant d'archaïsmes incompatibles avec la libération totale et démocratique du corps. Notre société de consommation ne supporte évidemment plus, elle exclut même par principe toute norme restrictive. Mais libérant le corps dans toutes ses virtualités de satisfaction, elle a cru libérer un rapport harmonieux préexistant naturellement chez l'homme entre lui et son corps. Il se trouve qu'il y a là une erreur fantastique. Toute la pulsion agressive antagoniste libérée en même temps, et non canalisée désormais par des institutions sociales, reflue aujourd'hui au cœur même de la sollicitude universelle pour le corps. C'est elle qui anime la véritable entreprise d'autorépression qui affecte aujourd'hui un tiers des populations adultes des pays surdéveloppés et 50% des femmes, enquête américaine, 300 adolescentes sur 446 suivent un régime. C'est cette pulsion qui, au-delà des déterminations de la mode, encore une fois incontestable, alimente cet acharnement autodestructif irrépressible, irrationnel, où la beauté et l'élégance qui étaient visées à l'origine ne sont plus qu'alibi à un exercice disciplinaire quotidien obsédant. Le corps devient, dans un retournement total, cet objet menaçant qu'il faut surveiller, réduire, mortifier à des fins esthétiques, les yeux fixés sur les modèles efflanqués, décharnés de vogue, où l'on peut déchiffrer toute l'agressivité inverse d'une société d'abondance envers son propre triomphalisme du corps, toute la dénégation véhémente de ses propres principes. Cette conjonction de la beauté et de la répression dans le culte de la ligne, où le corps, dans sa matérialité et dans sa sexualité, n'a au fond plus rien à voir, mais joue comme support de deux logiques tout à fait différentes de celles de la satisfaction, l'impératif de mode, principe d'organisation sociale, et l'impératif de mort, principe d'organisation psychique. Cette conjonction est un des grands paradoxes de notre civilisation. La mystique de la ligne, la fascination de la minceur ne joue si profondément que parce que ce sont des formes de la violence, que parce que le corps y est proprement sacrifié, à la fois figé dans sa perfection et violemment vivifié comme dans le sacrifice. Toutes les contradictions de cette société sont réunies là, au niveau du corps. Scandisona vous apportera, par son action remarquable, tour de taille, tour de hanche, tour de cuisse, tour de mollet, ventre plat, tissu régénéré, chair raffermie, peau lisse, silhouette nouvelle. Ouvrez les guillemets. Après 3 mois d'utilisation de Scandisoma, j'ai perdu mes kilos superflus. J'ai gagné par la même occasion une forme physique et un équilibre nerveux remarquable. Fermez les guillemets. Aux États-Unis, les aliments basse calorie, les sucres artificiels, les beurres sans graisse, les régimes lancés à grand renfort publicitaire font la fortune de leurs investisseurs ou de leurs fabricants. On estime que 30 millions d'Américains sont obèses ou se jugent tels. Le sex exchange standard. Sexualisation automatique des objets de première nécessité. Ouvrez les guillemets. Que l'article a catapulté dans l'espace commercial soit une marque de pneu ou un modèle de cercueil, c'est toujours au même endroit qu'on essaie d'atteindre le client éventuel, au-dessous de la ceinture. L'érotisme pour l'élite, la pornographie pour le grand public. Jacques Stenberg, Toi ma nuit. Théâtre nu, Broadway. La police a autorisé les représentations à condition qu'il n'y ait sur scène ni érection ni pénétration. Première foire de la pornographie à Copenhague. Sexe 69. Il s'agit d'une foire et non d'un festival comme l'avaient annoncé les journaux. C'est-à-dire d'une manifestation essentiellement commerciale destinée à permettre aux fabricants de matériel pornographique de poursuivre la conquête des marchés. Il semble que les dirigeants de Christian Borg, pensant généreusement ôter tout mystère à ce domaine, et donc beaucoup d'attrait, en levant les barrières, aient sous-estimé l'aspect financier de l'affaire. Des gens avisés, à l'affût d'investissements fructueux, n'ont pas tardé à comprendre quelle aubaine pouvait être pour eux l'exploitation poussée de ce secteur de consommation appartenant désormais au commerce libre. Ainsi, s'étant promptement organisés, sont-ils en train de faire de la pornographie une des industries les plus rentables du Danemark. Les journaux. Pas un millimètre de zone érogène laissée en friche. Partout, il est question de l'explosion sexuelle, de l'escalade de l'érotisme. La sexualité est à la une de la société de consommation, surdéterminant spectaculairement tout le domaine signifiant des communications de masse. Tout ce qui est donné à voir et à entendre prend ostensiblement le vibrato sexuel. Tout ce qui est donné à consommer est affecté de l'exposant sexuel. En même temps, bien sûr, c'est la sexualité elle-même qui est donnée à consommer. C'est là encore la même opération que nous signalions à propos de la jeunesse et de la révolte, de la femme et de la sexualité. En indexant de plus en plus systématiquement la sexualité sur les objets et les messages commercialisés et industrialisés, on détourne ceux-ci de leur rationalité objective, et on détourne celle-là de sa finalité explosive. La mutation sociale et sexuelle se fait ainsi selon des voies frayées, dont l'érotisme culturel et publicitaire demeure le terrain expérimental. Certes, cette explosion, cette prolifération est contemporaine de changements profonds dans les rapports mutuels des sexes, dans le rapport individuel au corps et au sexe. Elle traduit plus encore l'urgence réelle et nouvelle à bien des égards des problèmes sexuels. Mais il n'est pas sûr non plus que cette affiche sexuelle de la société moderne ne soit pas un gigantesque alibi à ces problèmes mêmes et, en les officialisant systématiquement, ne leur donne une évidence trompeuse de liberté qui en masque les contradictions profondes. Nous sentons que cette érotisation est démesurée et que cette démesure a un sens. Traduit-elle seulement une crise de désublimation, de décompression des tabous traditionnels? Auquel cas, on pourrait penser qu'une fois atteint le seuil de saturation, une fois apaisée cette fringale des héritiers du puritanisme, la sexualité libérée retrouve son équilibre, devenue autonome et dégagée de la spirale industrielle et productiviste. On peut penser aussi que l'escalade ainsi amorcée continuera comme celle du PNB, comme celle de la conquête de l'espace, comme celle de l'innovation en matière de mode et d'objets, et pour les mêmes raisons. Dans cette perspective, la sexualité est définitivement impliquée dans le processus illimité de production et de différenciation marginale, parce que c'est la logique même de ce système qui l'a libérée en tant que système érotique et en tant que fonction individuelle et collective de consommation. Récusons toute espèce de censure morale. Il ne s'agit pas ici de corruption et, d'ailleurs, nous savons que la pire corruption sexuelle peut être signe de vitalité, de richesse, d'émancipation. Elle est alors révolutionnaire et manifeste l'épanouissement historique d'une classe nouvelle consciente de sa victoire. Telle fut la Renaissance italienne. Cette sexualité est signe de fait. Mais ce n'est plus celle-là. C'est son spectre qui ressurgit sur le déclin d'une société en signe de mort. La décomposition d'une classe ou d'une société finit toujours par la dispersion individuelle de ses membres et, entre autres, par une véritable contagion de la sexualité comme mobile individuel et comme ambiance sociale. Telle fut la fin de l'Ancien Régime. Il semble qu'une collectivité gravement dissociée, parce qu'elle est coupée de son passé et sans imagination sur l'avenir, renaisse à un monde presque pur des pulsions, mêlant dans la même insatisfaction fiévreuse les déterminations immédiates du profit et celles du sexe, l'ébranlement des rapports sociaux, cette collusion précaire et cette concurrence acharnée qui font l'ambiance du monde économique, se répercutent sur les nerfs et sur les sens, et la sexualité, cessant d'être un facteur de cohésion et d'exultation commune, devient une frénésie individuelle de profit. Elle isole chacun en l'obsédant. Et, très caractéristique, En s'exacerbant, elle devient anxieuse d'elle-même. Ce n'est plus la honte, la pudeur ou la culpabilité qui pèsent sur elle, marque des siècles et puritanisme. Celles-ci disparaissent peu à peu avec les normes et les interdits officiels. C'est l'instance individuelle de répression, la censure intériorisée qui sanctionne cette libération sexuelle. La censure n'est plus instituée religieusement, moralement, juridiquement, en opposition formelle avec la sexualité, elle plonge désormais dans l'inconscient individuel et s'alimente aux mêmes sources que la sexualité. Toutes les gratifications sexuelles qui vous environnent portent en elles leur propre censure continuelle. Il y a plus, il y a moins, de répression, mais la censure est devenue une fonction de la quotidienneté. Nous implanterons une débauche inouïe, disait Rimbaud, dans ces villes. Mais l'escalade de l'érotisme, la libération sexuelle n'ont rien à voir avec le dérèglement de tous les sens. Le dérèglement orchestré et l'angoisse sourde qui l'imprègne, loin de changer la vie, composent tout juste une ambiance collective, où la sexualité devient en fait affaire privée, c'est-à-dire férocement consciente d'elle-même, narcissique et ennuyée d'elle-même. L'idéologie même d'un système qu'elle couronne dans les mœurs, et dont elle est un rouage politique. Car au-delà des publicitaires qui jouent la sexualité pour mieux faire vendre, il y a l'ordre social existant qui joue la libération sexuelle, même s'il la condamne moralement, contre la dialectique menaçante de la totalité. Symboles et fantasmes dans la publicité. Cette censure généralisée qui définit la sexualité consommée, il ne faut surtout pas la confondre avec une censure morale. Elle ne sanctionne pas les comportements sexuels conscients au nom d'impératifs conscients. Dans ce domaine, le laxisme apparent est de rigueur. Tout le provoque et y encourage. Même les perversions peuvent librement s'accomplir, tout cela est relatif bien sûr, mais les choses vont dans ce sens. La censure que notre société institue dans son hyperstésie sexuelle est plus subtile. Elle joue au niveau des fantasmes eux-mêmes et de la fonction symbolique. Contre celle-là, toutes les actions militantes, contre la censure traditionnelle, ne peuvent rien. Elles combattent un ennemi désuet, de même que les forces puritaines, encore virulentes, brandissent, avec leur censure et leur morale, des armes désuètes. Le processus fondamental se déroule ailleurs, et non au niveau conscient et manifeste des prestiges bénéfiques ou maléfiques du sexe. Il y a là-dessus une terrible naïveté chez les pourfendeurs comme chez les défenseurs de la liberté sexuelle, à droite comme à gauche. Prenons quelques exemples publicitaires sur le champagne Henriot. Une bouteille et une rose, la rose rougit, s'entr'ouvre, avance vers l'écran, grossit, devient tumescente. Le bruit amplifié d'un cœur qui bat emplit la salle, s'accélère, se fait fiévreux, fou. Le bouchon commence à sortir du goulot de la bouteille. Lentement, inexorablement, il grandit, s'approche de la caméra. Ses entraves de fil d'Archal cèdent une à une. Le cœur tape, tape, la rose gonfle, encore le bouchon. Ah, et soudain, le cœur s'arrête, le bouchon saute. La mousse de champagne coule en petites pulsations le long du goulot. La rose pâlit et se referme, la tension va décrescendo. Fermez les guillemets. Souvenons-nous aussi de cette publicité pour robinetterie, où une vamp mimait avec force contorsion et de plus en plus gros plan l'orgasme progressif avec des manettes, des tuyauteries, toute une machinerie phallique et spermatique, et des milliers d'exemples semblables où joue à fond la soi-disant persuasion clandestine, celle qui manipule si dangereusement nos pulsions et nos fantasmes, et défraie sans doute bien davantage la chronique intellectuelle que l'imagination des consommateurs. Lancinante et culpabilisante, la publicité érotique provoque en nous des remous si profonds. Une blonde toute nue avec des bretelles noires, ça y est, c'est gagné, le marchand de bretelles est riche. Et même s'il constate qu'il suffit de lever vers le ciel le plus anodin parapluie pour en faire un symbole phallique, Held ne met en doute ni qu'il s'agisse d'un symbole, ni l'efficacité de ce symbole en tant que tel sur la demande solvable. Plus loin, il compare deux projets publicitaires pour la lingerie Weber. Les fabricants ont choisi le premier, et ils ont eu raison car, dit-il, ouvrez les guillemets, le garçon pâmé est comme immolé. Pour une femme, grande est la tentation d'être dominatrice. Mais c'est aussi une tentation qui fait peur. Si la fille Sphinx et sa victime étaient devenues l'image de marque de Weber, la culpabilité ambiguë des éventuels clients eût été si forte qu'elles auraient choisi des soutiens-gorge moins compromettants. Fermez les guillemets. Ainsi, les analystes vont-ils se pencher doctement, avec un frisson délicieux, sur les fantasmes publicitaires, sur ce qu'il y a d'oralité dévorante, d'analité ou de phallique ici ou là, tout cela branché sur un inconscient du consommateur qui n'attendait que ça pour se faire manipuler. Cet inconscient, bien sûr, on le suppose déjà là, donné d'avance, puisque Freud l'a dit, une essence cachée dont l'aliment préféré est le symbole ou le fantasme. Même circularité vicieuse entre l'inconscient et le fantasme que jadis entre le sujet et l'objet au niveau de la conscience. On indexe l'un sur l'autre, on définit l'un par l'autre un inconscient stéréotypé comme fonction individuelle et des fantasmes livrés comme produits finis par les agences publicitaires. On élude par là tous les véritables problèmes posés par la logique de l'inconscient et la fonction symbolique, en les matérialisant spectaculairement dans un processus mécanique de signification et d'efficacité des signes. Ouvrez les guillemets, il y a de l'inconscient, et puis voilà des fantasmes qui l'accrochent, et cette conjonction miraculeuse fait vendre. Fermez les guillemets. C'est la même naïveté que celle des ethnologues qui croyaient aux mythes que leur rapportaient les indigènes et les prenaient au pied de la lettre, en même temps que la superstition indigène en l'efficacité magique de ces mythes et de ces rites. Le tout afin de pouvoir entretenir eux-mêmes leur mythe rationaliste de la mentalité primitive. On commence à mettre en doute l'impact direct de la publicité sur les ventes. Il serait temps de mettre aussi radicalement en question cette mécanique fantasmatique naïve, alibi des analystes aussi bien que des publicitaires. Grossièrement, la question est celle-ci. Y a-t-il vraiment de la libido là-dedans? Qu'y a-t-il de sexuel, de libidinal dans l'érotisme déployé? La publicité, mais aussi tous les autres systèmes mass-médiatiques, est-elle une véritable scène fantasmatique? Ce contenu symbolique et fantasmatique manifeste est-il au fond à prendre plus à la lettre que le contenu manifeste des rêves? Et l'injonction érotique n'a-t-elle au fond pas plus de valeur ni d'efficacité symbolique que l'injonction commerciale directe n'a d'efficacité marchande? De quoi parle-t-on? On est en réalité, dans toute cette affaire, en face d'une mythologie au niveau second, qui s'ingénie à faire prendre pour du fantasme ce qui n'est que de la fantasmagorie, à piéger les individus, à travers une symbolique truquée, au mythe de leur inconscient individuel, pour le leur faire investir comme fonction de consommation. Il faut que les gens croient qu'ils ont un inconscient, que cet inconscient est là, projeté, objectivé dans la symbolique érotique publicitaire, preuve qu'il existe, qu'ils ont raison d'y croire et donc de vouloir l'assumer, d'abord au niveau de la lecture des symboles, ensuite à travers l'appropriation des biens désignés par ces symboles et chargés de ces fantasmes. En fait, il n'y a dans tout ce festival érotique ni symboles ni fantasmes, et on se bat contre des moulins à vent en taxant tout cela de stratégie du désir, lors même que les messages phalliques ou autres ne sont pas ironisés, en clin d'œil, franchement ludiques. On peut admettre sans risque de se tromper que tout le matériel érotique qui nous environne est entièrement culturalisé. Ce n'est pas un matériel fantasmatique ni symbolique, c'est un matériel d'ambiance. Ce n'est ni du désir ni de l'inconscient qui parle, c'est de la culture, de la subculture psychanalytique tombée dans le lieu commun, dans le répertoire, dans la rhétorique de foire, de l'affabulation au second niveau, proprement de l'allégorie. Ça, l'inconscient, n'y parle pas. Ça renvoie tout simplement à la psychanalyse telle qu'elle est instituée, intégrée et récupérée aujourd'hui dans le système culturel, bien sûr pas à la psychanalyse comme pratique analytique, mais à la fonction signe de la psychanalyse, culturalisée, esthétisée, mass-médiatisée. Il ne faudrait quand même pas confondre une combinatoire formelle et allégorique de thèmes mythologisés avec le discours de l'inconscient, pas plus que le feu de bois artificiel avec le symbole du feu. Rien de commun entre ce feu signifié et la substance poétique du feu analysée par Bachelard. Le feu de bois est un signe culturel, rien de plus, et il n'a qu'une valeur de référence culturelle. Ainsi toute la publicité, l'érotique moderne sont faites de signes et non de sens. Il ne faut pas se laisser prendre à l'escalade érotique de la publicité, pas plus qu'à l'escalade de l'ironie publicitaire, du jeu, de la distance, de la contre-publicité qui, significativement, va de pair avec elle. Tous ces contenus ne sont que des signaux juxtaposés, qui culminent tous dans le super-signe qu'est la marque, et qui est, elle, le seul véritable message. Nulle part il n'y a langage, et surtout pas de l'inconscient, C'est pourquoi les 50 culs féminins cuistrement juxtaposés par Airborne dans sa récente publicité. Eh oui, tout est là. C'est lui notre premier terrain d'étude et dans toutes les attitudes où il a obligation de se poser, car nous pensons avec Madame de Sévigné, etc. C'est pourquoi ces 50 culs, et bien d'autres encore, sont possibles. Ils n'attendent à rien du tout et ne réveillent rien du tout en profondeur. Ils ne sont que connotations culturelles, un métalangage de connotations. Ils parlent le mythe sexualiste d'une culture dans le vent et n'ont rien à voir avec l'analité réelle. C'est bien pour cela qu'ils sont inoffensifs et consommables immédiatement en images. Le vrai fantasme n'est pas représentable. S'il pouvait être représenté, il serait insupportable. La publicité pour les lames gilettes représentant deux lèvres veloutées de femmes encadrées par une lame de rasoir n'est regardable que parce qu'elle ne parle pas réellement le fantasme de vagin castrateur auquel elle fait allusion. Fantasme insoutenable, et parce qu'elle se contente d'associer des signes vidés de leur syntaxe, des signes isolés, répertoriés, qui ne suscitent aucune association inconsciente, qui les élude au contraire systématiquement, mais seulement des associations culturelles. C'est le musée Grévin des symboles, une végétation pétrifiée de fantasmes signes qui ne retiennent plus rien du travail pulsionnel. En résumé, c'est donc lui faire bien de l'honneur que de faire le procès de la publicité pour manipulation affective. Mais sans doute cette gigantesque mystification où se prennent à l'envi censeurs et défenseurs a-t-elle une fonction bien précise qui est de faire oublier le véritable procès, c'est-à-dire l'analyse radicale des processus de censure qui jouent, eux, très efficacement derrière toute cette fantasmagorie. Le conditionnement véritable auquel nous sommes soumis par le dispositif érotique publicitaire, ce n'est pas la persuasion abyssale, la suggestion inconsciente, c'est au contraire la censure du sens profond, de la fonction symbolique, de l'expression fantasmatique dans une syntaxe articulée, bref, de l'émanation vivante des signifiants sexuels. C'est tout cela qui est rayé, censuré, aboli dans un jeu de signes sexuels codifiés, dans l'évidence opaque du sexuel partout déployé, mais où la déstructuration subtile de la syntaxe ne laisse place qu'à une manipulation fermée et tautologique. C'est dans ce terrorisme systématique qui joue au niveau même de la signification que toute sexualité vient se vider de sa substance et devient matériel de consommation. C'est là qu'a lieu le procès de consommation, et ceci est autrement plus grave que l'exhibitionnisme naïf, le phallisme de foire et le freudisme de vaudeville. La poupée sexuée. C'est un nouveau jouet. Mais les jouets s'adressant aux enfants à partir de fantasmes d'adultes engagent toute une civilisation. Cette nouvelle poupée témoigne de la réalité de notre rapport au sexe, comme à toute autre chose en société de consommation, lequel est régi par un processus de simulation et de restitution. Le principe est un vertige artificiel de réalisme. La sexualité est ici confondue avec la réalité objective des organes sexuels. On y regarde de près. Il en est de même de la couleur à la télévision, de la nudité du corps dans la publicité ou ailleurs, comme la participation dans les usines ou de celles organiques et actives des spectateurs dans le spectacle total du théâtre d'avant-garde. Partout, il s'agit de la restitution artificielle d'une vérité ou d'une totalité, de la restitution systématique d'une totalité sur la base de la division préalable du travail ou des fonctions. Dans le cas de la poupée sexuée, équivalent du sexe comme jouet, comme manipulation infantile, il faut avoir dissocié la sexualité comme totalité dans sa fonction symbolique d'échange total pour pouvoir la circonscrire dans les signes sexuels, organes génitaux, nudité, attributs sexuels secondaires, signification érotique généralisée de tous les objets, et les assigner à l'individu comme propriété privée ou comme attribut. La poupée traditionnelle remplissait pleinement sa fonction symbolique, et donc sexuelle aussi. L'affublé du signe sexuel spécifié, c'est en quelque sorte barrer cette fonction symbolique et restreindre l'objet à une fonction spectaculaire. Ceci n'est pas un cas particulier. Ce sexe ajouté à la poupée comme attribut secondaire, comme affabulation sexuelle et en fait comme censure de la fonction symbolique, c'est l'équivalent au niveau de l'enfant de l'affabulation nudiste et érotique, de l'exaltation des signes du corps dont nous sommes partout entourés. La sexualité est une structure d'échange total et symbolique. Premièrement, on la destitue comme symbolique en lui substituant les significations réalistes, évidentes, spectaculaires du sexe et des besoins sexuels. Deuxièmement, on la destitue comme échange, ceci est fondamental, en individualisant l'éros, en assignant le sexe à l'individu et l'individu au sexe. C'est ici l'aboutissement de la division technique et sociale du travail. Le sexe devient fonction parcellaire et, dans le même mouvement, il est affecté à l'individu en propriété privée, de même pour l'inconscient. On voit qu'il s'agit au fond d'une seule et même chose, la dénégation de la sexualité comme échange symbolique, c'est-à-dire comme processus total au-delà de la division fonctionnelle, c'est-à-dire comme subversive. Une fois déconstruite et perdue sa fonction totale et symbolique d'échange, la sexualité tombe dans le double schème valeur d'usage, valeur d'échange, qui sont toutes deux ensemble caractéristiques de la notion d'objet. Elle s'objective comme fonction séparée à la fois, premièrement, valeur d'usage pour l'individu, à travers son propre sexe, sa technique sexuelle et ses besoins sexuels, car il s'agit cette fois de technique et de besoins, non de désir. Deuxièmement, valeur d'échange, non plus symbolique, mais soit économique et marchande, prostitution sous toutes ses formes, soit beaucoup plus significative aujourd'hui, valeur signe ostentatoire, le standing sexuel. C'est tout ceci que raconte, comme un air de jouet progressiste, la poupée sexuée. Comme la croupe nue d'une femme offerte en prime pour une publicité d'électrophone ou d'Air India, ce sexe poupin est une aberration logique. Il est aussi grotesque qu'un soutien-gorge sur une fille impubère. On peut voir ça sur les plages. Sous les apparences inverses, il a d'ailleurs le même sens. L'un voile, l'autre dévoile, mais les deux sont d'une affectation égale, d'un puritanisme égal. Dans l'un et l'autre cas, c'est une censure qui joue à travers l'artefact, à travers la simulation ostentatoire, toujours fondée sur une métaphysique du réalisme, le réel étant ici le réifié et l'inverse du vrai. Plus on rajoute de signes attributs du réel, plus on perfectionne l'artefact, plus on censure la vérité en détournant la charge symbolique vers la métaphysique culturelle du sexe réifié. Tout ainsi, et non seulement les poupées, sera aujourd'hui artificiellement sexualisé pour mieux exorciser le libidinal et la fonction symbolique. Mais ce cas particulier est admirable, car ce sont ici les parents qui, de bonne foi et sous couleur d'éducation sexuelle, opèrent sur l'enfant une véritable castration par surexposition de signes sexuels là où ils n'ont rien à faire.